c'est s'attacher au moi alors qu'il y a absence de moi. Ces visions erronées proviennent de l'attachement et produisent l'intégralité des illusions de tous les êtres en ce monde. Donc il dit s'attacher au moi alors qu'il y a absence de moi. Autrement dit, le bouddhisme ne vise pas, comme le disait Ananda Kumaraswamy, le bouddhisme ne vise pas à détruire le moi s'il n'y en a pas. Le bouddhisme éclaire simplement le fait que le moi est une vue trompeuse et donc des souffrances en découlent naturellement. Alors, voilà, nous trouvons dans le 82, chose suivante. Je vous repasse largement. Il dit, ça on en a déjà parlé ensemble, enfin, je repasse dessus vite fait. Notre corps, ou nous-mêmes, sur nous-mêmes, donc notre corps existe en fonction des causes et des conditions et montre l'aspect des effets et des rétributions. Autrement dit, la cause c'est nous et in, c'est ce qu'on appelle le karma, donc c'est antérieur à l'apparition de l'objet, de la conscience. Les conditions sont l'environnement intérieur et extérieur dans lequel on se trouve, donc cette association cause-condition, on n'en a pas conscience, on ne voit que son fruit. C'est pour ça qu'il dit que le corps, ou l'esprit c'est la même chose, le corps montre l'aspect des effets et des rétributions, parce qu'on ne voit jamais que l'effet. Donc ça veut dire aussi que le corps et à toute raison l'esprit sont toujours l'effet de cause-condition qui lui sont évidemment antérieures, ce qui signifie donc que le corps est l'effet dans l'environnement, que le corps et l'environnement sont pas deux, l'unité du corps et de l'environnement, et en plus ça veut dire que, alors que les êtres s'illusionnant sur la notion d'un moi, ne peuvent que voir apparaître l'objet en la conscience à chaque instant, parce que c'est imposé par le mouvement du corps, ce qui fait que, strictement parlant, la pensée n'existe pas en tant qu'acte. Jamais, un être a planté un acte en termes de penser ceci plutôt que cela. L'image qui arrive à la conscience, l'objet de la conscience, c'est toujours un objet imposé. Donc on est pensé. Puisqu'on le pense, il n'y a pas d'action de pensée. Hein? Donc il dit forcément, on ne peut montrer que l'aspect des effets. L'objet mental à chaque instant, c'est un effet. Il suffit que vous ayez une variation de production d'hormones pour que vous voyiez du noir pendant 2 jours. Et vous avez le droit de dire que vous n'allez pas à cause de ceci, à cause de cela, alors qu'en fait, ça aurait été une dérégulation hormonale qui fait que vous ne vous sentez pas bien et que toutes les images mentales qui vous traversent l'esprit sont des images mentales de la souffrance et de la tristesse ou du manque d'énergie. Mais à chaque instant, l'objet de la conscience est imposé par l'état. Et comme en fait il n'y a pas de dualité entre l'objet de la conscience et la conscience, c'est la même chose. L'objet est EST la conscience est EST l'objet, c'est une seule chose, c'est le 1 de la une pensée momentanée. Bien. Ça veut dire que ce 1 est tout le temps imposé et que c'est une traduction malhabile de l'état momentané. Le je pense ceci, le je pense cela, c'est toujours une traduction malhabile d'un état qui est invisible et qui sous-tend à chaque instant ce qu'on va appeler la pensée. Donc on est pensé à chaque instant. Donc des futilités comme connaître toi-même par exemple, hein, l'oracle de Delphes, ou des futilités comme je pense donc je suis, c'est des trucs qui emmènent les gens dans les souffrances inextinguibles. On ne peut rien en faire. Il n'y a pas d'issue, hein. Bon. Donc c'est toujours par rapport à la vue du moi qui n'existe pas. Aussi. Il est dit. Dès lors, même après la mort, les deux lois de la matière et de l'esprit subsistent immanquablement en fonction du karma. Il ne s'agit pas de l'âme. Et il dit dans le 84, tous les êtres sont prisonniers de l'idée de leur existence, moi. Là réside la cause fondamentale de leur souffrance. Et il dit, la souffrance ou le bonheur perdurent après la mort, irrémédiablement, cependant, ils ne perdurent pas en fonction du moi. Donc avant, il disait, il ne s'agit pas de l'âme, là, il dit, ça ne perdure pas en fonction du moi, et en l'occurrence, ce n'est que la cause et l'effet simultanés, toujours. Ce à quoi s'est éveillé le Bouddha sur la merveille de la simultanéité de la cause et de l'effet, c'est que, il n'y a pas de moi, il y a des objets mentaux qui s'imposent, il y a déjà le corps et l'environnement qui s'imposent. Ce reflet tardif, qui est l'objet de la conscience, qui ne fait qu'un avec la conscience, qui est donc le passé du corps dans son environnement, cela est imposé. De cela, on n'échappe pas. C'est comme ça, ça s'impose pendant tant de temps. Donc, constituer un moi là-dessus, un moi qui en plus se veut volontaire, décisionnaire, libre, ça n'entraîne, ça ne peut entraîner que des souffrances. Évidemment. Il n'y a pas. Non, c'est moi qui me suis. C'est pour ça que le grand patriarche, en 84, toujours page 3, à propos de Shakyamuni, dit que Shakyamuni a pratiqué de diverses mortifications à l'époque, avant la Zen l'évêque. Et ces mortifications étaient des méthodes de pratique et des philosophies des voies extérieures transmises en Inde depuis les temps anciens, consistant à martyriser son corps pour obtenir la libération. Il pratiqua également les pratiques aisées sous la forme de la méditation. Pourtant, par ces moyens, il ne parvint pas à trouver la solution fondamentale vis-à-vis de lui-même. Le grand patriarche dit, malgré sa volonté de rechercher l'éveil en concentrant son esprit, finalement, par ce moyen, on ne peut parvenir à l'éveil. Parce qu'on ne peut pas concentrer un esprit dont on est tributaire à chaque instant et qui s'impose. On n'est pas décisionnaire sur l'objet de la conscience. Jamais. Et si à un moment vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai pensé bleu plutôt que bleu jaune bleu, vous pouvez le faire, mais votre vie sur 20 ans, 30 ans, 40, tout ce que vous pouvez constater, c'est que tout s'est imposé tout le temps. Et que vous ayez différé votre envie de pisser d'une minute avant à une minute après, ça ne joue pas quant à votre réalité qui est toujours imposée. La vie s'impose. Donc, même si on concentre son esprit, déjà, il n'y a pas la possibilité de concentrer ce qui n'est qu'une pensée momentanée. Il n'y a pas d'assise pour prendre quelque chose et se concentrer, mais ça n'a pas de durée. Et en plus, comme ça ne dépend pas du moi qui n'existe pas, ni de l'âme qui n'existe pas, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'issue. Donc, la vue du moi, ainsi que la vue de la permanence du corps, et de la vue de la durée de la société, ou prendre la joie, prendre la souffrance pour la joie, croire pur ce qui est impur, tout ça, évidemment, c'est les souffrances des êtres humains en général. Tous les êtres souffrent de ça. Aussi, il est dit, donc on a dit que l'objet de la conscience et la conscience sont pas deux, c'est un seulement, hein, c'est juste un. Ce un, donc c'est le un de la une pensée. Donc, Donald Schirin dira, toute la vie est une pensée. C'est-à-dire que toute la vie, quelle que soit sa durée, sera toujours la non-dualité de l'objet et de la conscience qui sont un. Toujours. C'est de l'interdabilité, que la stabilité, je crois, ce que vous êtes, ce qu'on veut, bien sûr. Donc là, Nick Schirin dit, enfin, il cite Miaule, qui dit, si l'on n'éclaircit pas le lieu merveilleux de une pensée 3000, comment donc pourrait-on dans l'un appréhender le tout? Les 3000 phénomènes ne s'étant pas affranchis de l'obscurité de une pensée, nous ne trouvons que des causes et des effets douloureux. Donc, tant qu'il n'y a pas éveil à ce principe fondamental, qu'est la simultanéité de la cause et de l'effet, en liant ça au fait que tout est instantané et que tout est lié complètement, il n'y a que des causes et des effets douloureux. Il n'y a pas de pratique qui mène à l'éveil. Il n'y a que de la souffrance. Quels que soient les actes accumulés en termes de bien ou en termes de pureté, ça n'aboutira toujours qu'à l'incompréhension de ce un qui est la vie à chaque instant. Toujours. Aussi, on trouve le grand patriarche, je dis, une pensée de 3000, Cette formulation ne signifie ni que la une pensée existe de manière préalable à l'aspect des dharmas, qui est 3000, ni à l'inverse, que les 3000 soient antérieurs à une pensée. Une pensée est telle qu'elle 3000. 3000 sont telles qu'elles une pensée. Et dans le 52, page 14, pour ceux qui savent encore lire, le grand patriarche dit 3000 est la rétribution du support, une pensée est la rétribution du principal. Donc, le bouddhisme dit que la rétribution de l'infinité des actes, du temps sans origine, a deux aspects. L'un dans la rétribution du support, l'autre dans la rétribution du principal. Le support, c'est l'ensemble phénoménal, y compris le corps. Le principal, c'est la une pensée. Autrement dit, aussi bien la une pensée momentanée que l'ensemble phénoménal dans lequel on croit être imprégné, implanté, plutôt mis au milieu, à l'intérieur. Comme le disait Heidegger, jeté dans le monde est préexistant au fait qu'on se... Ça c'est faux. On n'est pas jeté dans le monde. Le grand patriarche dit, ni la une pensée existe de manière préalable à l'aspect des dharmas que 3000, ni à l'inverse que 3000 soit antérieur à la une pensée. C'est simultané. C'est simultané, et en même temps, les 3000 que l'on perçoit, qui vont faire notre une pensée momentanée, l'objet de notre conscience, ces 3000 que l'on perçoit et la une pensée sont une seule et même chose qui est la rétribution de nos actes depuis un temps infini. Tout cela fait un. De ce un, on ne peut pas sortir. Si, sauf à s'éveiller. Mais de ce un, on ne sort pas. Et le grand affaillage dit, l'objet, c'est-à-dire la substance de toute chose, c'est-à-dire dépassant le cadre du phénomène que l'on perçoit pour arriver à l'en-soi de la réalité, notre propre vie qui est fusionnante avec l'ensemble du phénoménal. Donc il dit, l'objet, c'est la substance de tout le phénomène. Donc, ça signifie que l'objet, c'est-à-dire la substance de toute chose, est EST, la sagesse. Autrement dit, l'observation ne donne jamais que la sagesse relative de l'observateur, c'est-à-dire son état. Toujours, toujours, toujours. C'est vrai dans les neuf mondes, c'est vrai également dans le dixième. Celui-là, il dit, l'aspect d'éclairer la substance même des phénomènes et celui de faire apparaître le principe véritable apparaissent d'eux-mêmes en tant que substance. Et bien, c'est-à-dire que, à chaque instant, le fait d'être dans le monde et d'avoir une pensée momentanée exprime notre principe véritable en termes d'habilité, d'animalité, de colère, de stupidité, de joie et les actes qui y sont liés. Et de la même manière, le Bouddha, lui, ayant dépassé cette vue étroite des humains, extirpe la loi et le gonzon de l'ensemble phénoménal. C'est qu'il fait apparaître le principe qui l'éveille, alors que nous faisons apparaître le principe que des neuf mondes. En l'occurrence, sur les neuf mondes, c'est les six premiers. On dit habilité, subtilité, colère, joie, tranquillité, machin. Mais dire plus, donc, il n'y a pas de perception objective. C'est une fumisterie, cette dichotomie, subjectivité. Objectivité, c'est faux, il n'y a pas. C'est toujours le un de la pensée qui n'est que la vue de son propre corps. Comme Merleau Ponty le disait, on ne voit jamais le corps de l'autre, on objectif son corps, bon, c'est tout. Donc, on a vu ces quatre premières conceptions erronées, n'est-ce pas? Du monde hors bouddhisme. Et page 10, il dit que dans le bouddhisme provisoire, donc il a été question de modifier cette perception, c'est-à-dire la perception du moi, la perception de prendre pour pur ce qui est impur, la souffrance pour la joie et la vie humaine comme permanente. Donc, dès le petit véhicule, on a attaqué ces conceptions bassement humaines qui amenaient des souffrances. Donc, il dit, le petit véhicule, parce que bon, dans le bouddhisme, on peut voir que il y a une séparation petit véhicule, grand véhicule, mais Ziyi dit que tous les enseignements qui sont basés sur la vacuité relèvent du petit véhicule. Parce que la vacuité, c'est vraiment tellement médiocre comme point de vue qu'un enseignement qui se base sur la vacuité relève du petit véhicule. Un angle dans petit véhicule, on inclura tout ce qui n'est pas la perception de la voie médiane. Donc la vacuité. Donc il dit, ces fidèles du petit véhicule, qui, attachés à la petite sagesse, énonçant l'impermanence, donc le monde n'est plus permanent, le corps non plus, il est impermanent. La souffrance, donc on est passé de la foi des six premières voies à la description de la souffrance de ce monde. L'impureté, autrement dit, le monde n'est pas le bon, la pureté, c'est le monde, c'est soit la vacuité, donc l'extinction dans la vacuité, soit le monde du Bouddha en dehors de ce monde. Et le non-soi, donc eux ont condamné ça et ont dit qu'il y a impermanence, souffrance, impureté et non-soi, donc ils disent ces êtres du petit véhicule commettent la faute de se détourner des véritables permanences, félicité, soi et pureté du grand véhicule, en particulier de ce train du lotus. Voilà. Donc, autrement dit, si dans un premier cas, la vue du moi, la vue de la permanence, machin, bidule, entraîne des souffrances, eh bien, la négation de tout ça par les adeptes du bouddhisme provisoire, aussi entraîne des souffrances vis-à-vis de la véritable vue du Bouddha, que sont la permanence, la félicité, le soi et la pureté, qui correspondent à l'enseignement définitif du Bouddha. Donc, on lit page 9, à propos des quatre premières conceptions erronées qu'on a vues, qui constituent le monde hors bouddhisme, viennent se rajouter les illusions au sujet des quatre vertus permanentes et immuables du bouddhisme, donc du grand véhicule, que sont la permanence, la félicité, le soi et la pureté. Autrement dit, après avoir indiqué que la permanence, la joie, le moi et la pureté des êtres ordinaires, on peut dire que ça, ça en est des souffrances, on va reprendre les mêmes termes, mais tels que le Bouddha voit, lui, les choses. Alors, dans le numéro 43, on trouve le grand patriarche qui dit « Pour la logique de ce monde, comme pour la logique des gens qui pratiquent l'enseignement provisoire, la présence permanente de la loi est relativement facile à comprendre. Par contre, la présence permanente de ce corps, tel quel, est difficile à saisir. La présence permanente du corps de la loi est évoquée dans tous les sutras. Par contre, la présence permanente du corps physique du Bouddha n'apparaît nulle part. Chacun pense que son propre corps, même le corps physique du Bouddha, disparaîtra. Or, il n'en est rien. Le corps ne peut ni apparaître, ni disparaître. » Et on trouve ceci également dans 43. Le grand maître Zilli raconte que lui-même a atteint après les 10 degrés de foi, le premier degré de station, donc c'est le 11e degré de la progression de l'Isalva. Et on dit que le 11e degré, donc dépasser la foi, ou ayant vécu toutes les choses relatives à la foi, on obtient les premiers bienfaits de la voie du milieu. Et il dit, lorsque je suis arrivé à ce degré, j'ai obtenu le principe de la voie du milieu. C'est-à-dire que j'ai obtenu pour la première fois la compréhension que ma vie demeure éternellement. Zilli dit ça. Il est arrivé au-dessus des 10 degrés de foi, il a vu qu'il n'y avait ni naissance ni mort. C'est le début de la voie du milieu. Et Jean Patriarche dit, dans le numéro 89, obtenir l'éveil de la voie du milieu, qui est appelé endurance de son corps vivant, c'est-à-dire notre corps, tel quel, c'est obtenir l'endurance au regard de la nature non produite de toute existence. Ça, c'est le 11e degré de station. Obtenir le regard de la nature non produite de toute existence, c'est ce qu'on appelle pouvoir endurer. Donc, tant qu'on ne perçoit pas que, tant qu'on ne voit pas la nature non produite de toute chose, on souffre de ce monde. C'est ce qu'on appelle le monde de Shabbat. Ici, c'est le monde de l'endurance. On dit, seul le Bouddha peut endurer dans ce monde. Et parce que nous, tout est comme nous sommes, nous souffrons de ce qui apparaît et disparaît. On souffre de voir l'âge, on souffre de voir les maladies apparaître, on souffre de voir les proches disparaître, on souffre de voir la perte de ceci, la perte de cela, ou l'arrivée de ceci qu'on n'aime pas. C'est toujours, on souffre de ça. Donc il dit, on peut endurer que, au moment où on perçoit la nature non produite de toute existence, c'est que rien ne peut ni apparaître, ni disparaître. C'est pour ça aussi que Nichiren dit, non seulement l'ainsi venu, mais également tous les êtres tels que nous, jusqu'aux grillons, fourmis, moustiques et mouches, tous sont la forme et l'esprit sans commencement ni fin. Penser qu'il y a un début et une fin pour les êtres relève des vues erronées des voies extérieures. Pour ça, il faut que les gens le rentrent dans leur tête, les pratiquants même de chez nous. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils rentrent ça dans leur crâne, qu'ils réalisent que la souffrance ne commence à disparaître que lorsqu'on réalise qu'il ne peut y avoir ni apparition, ni disparition de quoi que ce soit. Et tu viens de dire ça dans le gaucher, il dit, les souffrances ne disparaissent que lorsqu'on s'ouvre au fait que la vie ne peut ni naître ni disparaître. Donc en somme, on est parti de la permanence du moi, tout ça des êtres ordinaires qui étaient causés de souffrance, pour en revenir à une permanence, félicité, soi et pureté, mais qui vont pas être les mêmes bien sûr que les êtres ordinaires. Et c'est pour ça que Ziyi dit le sens de l'enseignement parfait est que dans l'aspect de ce monde, apparaissant, disparaissant, s'écoulant et mouvant, la réalité est immuable. C'est pourquoi on dit que la vérité vulgaire, donc la vérité vulgaire qu'on a vue avant les quatre premiers troubles, la vérité vulgaire est ni production, ni destruction. Parce que les êtres, spontanément, quand ils sont, ils ont l'impression que, même si on leur dit, t'es né à tel moment, machin, mais en fait, ils ont l'impression qu'ils vont durer tout le temps. Les êtres, les gosses, les 18 ans qui font les coups sur les scouts, comme ça. J'ai l'impression que leur vie est là, quoi. Ça a toujours été comme ça, le sentiment naïf des êtres, le sentiment naïvement empirique des êtres, c'est ça, quoi. Que ça va durer. Donc là, il dit, la vérité vulgaire est ni production ni destruction. Et Ziyi dit, dire qu'il n'y a pas de permanence parce que l'homme naît et meurt et que les choses périclitent et se transforment est entièrement une vision illusoire. Et donc, pour ce qui nous concerne, que sont maintenant la permanence, la félicité, le soi et la pureté qui expliquent l'objet merveilleux de la bodhiité? Page 2, non, pas page 2, page 4, hein. Du même numéro 91, il est dit, l'ainsi venant Shakya avant Léon des 500 grains de poussière, dans le passé hors le temps encore, alors qu'il était homme ordinaire, comprenant que son corps était la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace, ouvrit sur le champ l'éveil. Et le grand patriarche dit, la partie de phrase, son corps était la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace, étant l'objet de l'éveil, c'est le corps de la loi sans artifice. Donc, le corps et ce qu'il compose est l'objet de l'éveil. En fait, l'intégralité phénoménale est le corps de la loi, dans ce sens-là que le Bouddha s'éveille. Donc quand on dit que la permanence, la félicité, le soi et la pureté expliquent l'objet merveilleux, c'est que rien ne peut ni apparaître ni disparaître. C'est pour ça que le grand patriarche dit, donc, parmi les quatre autres sources de souffrance qui viennent de la méconnaissance de l'enseignement définitif du Bouddha, il dit que ces souffrances, c'est considérer comme impermanent ce qui est permanent, c'est-à-dire considérer comme impermanent la vie des êtres, alors que c'est absolument permanent, ça va correspondre à Kyo, Kyo qui est l'éternité. Il dit une source de souffrance, c'est prendre la félicité pour de la souffrance, qui va correspondre à Nam. C'est-à-dire que les êtres vont considérer comme de la souffrance ce qui est de la félicité, c'est-à-dire le fait de retourner notre vie au Bouddha. Donc le fait de réciter Nam, c'est Donc, il disait dans le Patriarche que lorsque Daivadatta est tombé dans l'enfer, il a hurlé Namo, mais il savait pas à quoi se rattacher. Donc il est tombé dans l'enfer comme ça. En fait, nous, quand on récite, le fait de dire Namo, comme disait Liliane Sylvain, c'est ramener, et toutes les conventions qu'on a, les ramener en gerbe, les orienter vers un point. Donc Namo, c'est ramener et concentrer sur l'objet de l'éveil, sur Myoho-Langeke. Donc en l'occurrence, Nam, c'est la sagesse de l'objet. Nam, Myoho-Langeke. Donc il dit, aussi bien les autres qui pratiquent, considérant parfois que la pratique est une souffrance, que les autres qui ne pratiquent pas et qui, vous regardant pratiquer, se diront, oh, ben, il perd son temps à pratiquer, il pourrait faire autre chose, ça aboutit à rien, je vois aucun effet, machin. Donc, il dit, c'est prendre la félicité qui est le fait, comme dit Nichiren, réciter Namyo-Langeke et la grande joie parmi les joies. Donc c'est ça, la félicité qu'on peut ressentir en pratiquant. Donc les gens auront une souffrance, alors que c'est la félicité. Troisième grande trouble, grande illusion, il dit, c'est penser que le soi est non-soi. Donc tout à l'heure, on a condamné le moi en disant que le moi n'était qu'un effet. Et là, en l'occurrence, il est dit que toutes les choses sont des individualités uniques. Donc il y a un soi à découvrir dans ce qui est, dans chacun des phénomènes qui est. Pourtant, ce n'est pas en tant que ce qu'il est en termes d'effet qu'on peut le comprendre, mais c'est ce qu'il est en termes de cause. Par exemple, Tato Gesu, tu as toujours dit moi ou je. Bon. Depuis que tu as 8 ans, tu dis je. Quand tu voulais une sucette, tu disais je. J'ai une sucette. Quand tu as eu 18 ans, tu disais autre chose que les sucettes, puis ça a changé. Donc, tu as toujours eu un je, un moi, qui s'est affirmé comme étant je suis ceci et distinct d'autrui. Bon. Donc, ce je a toujours été appuyé sur un constat conscient ou inconscient physique, qu'on a changé, donc t'as pas les mêmes objets de désir, forcément, et puis l'environnement, qui permet pas les choses comme ça. Donc, ce moi en question, qui s'est toujours affirmé comme étant un truc unique, a toujours été affirmé en termes d'effet, et donc ce moi dont on dit que c'est toujours le même toi, si on prend sur 50 ans, il a été divers et multiple. Mais si on réunit tout ce moi divers et multiple, on a un truc global qui est toi, mais qui est multiforme. Mais plus avant, tout à l'heure on disait que, en fait, là où on verra une chose, le Bouddha dit qu'il y a une fusion harmonieuse avec l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien l'environnement dans lequel ton moi a été, que ce qui poussait à dire moi à chaque instant, il y a aussi bien cet environnement que ce moi en question, donc l'intégralité du phénoménal de ta vie à chaque instant, plus ce moi qui disait je veux ceci, je veux cela, eh bien, cette intégralité est le soi. Ce dont nous provenons à chaque instant est le soi immuable. Qu'il est question, auquel il est question de s'éveiller. Et en dernier lieu, la huitième, donc, souffrance, c'est croire impur ce qui est pur. Et là, ce qui distingue la pureté et l'impureté, encore une fois, c'est la cause et l'effet. Jamais une cause entraîne un effet. Tout est cause-effet simultané. Donc la pureté, c'est de pratiquer, de faire apparaître le corps du Bouddha à l'instant même. Le reste n'a pas d'importance en termes de causalité. Jamais, 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 on a accompli un acte. Jamais, 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 on a été cause de ceci. La consécutivité est une vue illusoire et humaine. Il n'y a jamais de ceci entraîne cela. Jamais personne n'est mort à cause de la maladie. Jamais personne n'est mort à cause de la guerre. Jamais personne n'est mort à cause d'un meurtre ou d'un accident. Jamais, 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 c'est faux. Les relations causales ne sont pas telles que les êtres les voient. Donc, la mauvaise vision des relations causales, c'est l'impureté. La pureté elle-même, c'est le fait de réaliser que rien ne peut ni naître ni disparaître. C'est ça. Une véritable permanence, félicité, soi et pureté qui explique l'objet merveilleux de la bouddhéité. C'est pour ça que Nichiren dit dans l'enseignement oral, en récitant avec respect Nam-myoho-renge-kyo dans la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, nous soufflons le parfum des quatre vertus. Namu est la perfection de la félicité. Myoho est la perfection du soi. Renge est la perfection de la pureté. Kyo est la perfection de la permanence. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Namu est la perfection de la félicité, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est que dans l'acte de pratiquer que la joie la plus grande existe, jusqu'à l'éveil, s'entend. Myoho est la perfection du soi, c'est-à-dire, Myo, c'est la merveille qui est antérieure, c'est donc provient la pensée. Donc, s'il y a un soi, c'est là qu'il faut le voir, il faut le chercher dans ce dont on provient et qui nous distingue de tout à l'origine. Renge est la paramita, la perfection de la pureté, c'est ce qu'on vient de voir, la causalité, hein, peut-être qu'elle cause des causes simultanées. Et Kyo est la perfection de la permanence, parce que rien ne peut ni naître ni disparaître, encore une fois. Enfin, on a encore 5 minutes. Bon, je vais faire un top et puis on se prend. Oui, c'est pour ça que aussi bien la culpabilité d'être accompli ou pas accompli, la première vie, machin, bon. Aussi bien que l'enorgueillissement d'être accompli, c'est une hérésie. Il n'y a pas. Jamais. Alors sinon, pour terminer, donc le Shakyamuni disait, je demeure ici constamment, mais grâce à la force de mon pouvoir divin, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. Et le grand patriarche dit que ce pouvoir divin, partiel en fait, se manifeste tant dans le monde des phénomènes, ils le font en fonction des causes et des conditions. Autrement dit, ces pouvoirs divins sont des effets. Toujours. Et Nichiren dit, ce qu'on appelle pouvoir divin est ce que nous, les êtres, manifestons en chaque acte, à tout moment. Naissance, pérennité, transformation et extinction sont toutes la substance des pouvoirs transcendantaux substantiels des 3000 phénomènes. Autrement dit, naissance, pérennité, transformation et extinction des phénomènes multiples sont les pouvoirs divins dans le sens où tout apparaît et disparaît en ne servant qu'à alimenter la vue de l'observateur en termes de souffrance, de désespoir, de joie, de colère, de tranquillité ou de manque de tranquillité. Autrement dit, l'ensemble phénoménal naît, décline et disparaît, mais toujours en termes d'effets. Et ce ne sont, quelque part, que les pouvoirs du divin du vouloir voir sa propre existence. Personne. Donc tous les êtres, l'un pour l'autre, montrent ce pouvoir dit divin en termes d'effets, pour que, de façon à ce que chacun vive une réalité qui lui semble objective et qui ne soit que la traduction de son état tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que Nichiren dit, à présent, l'intention de Nichiren et des siens, s'ouvrant à l'éveil des ce corps, et ce qu'on appelle les pouvoirs transcendantaux mystérieux et secrets de l'ainsi venant. Ce triple corps, ces artifices, peut être obtenu avec un seul mot, il s'agit du mot foi. Autrement dit, ce que dit Nietzsche, c'est que si ces pouvoirs divins de naissance, disparition, machin, apparaissent toujours en termes d'effets, la seule manière pour nous de nous ouvrir au fait que rien ne peut naître ni disparaître, c'est d'ouvrir en nous ces trois corps, ces artifices du Bouddha, et la seule possibilité, c'est la croyance. Autrement dit, la croyance est la cause. Et comme le disait le grand patriarche, la croyance est la cause, et l'effet est la réalisation du Daimoku. Autrement dit, dans le fait de croire, on a la possibilité de produire l'effet de l'éveil, qu'on soit dans la souffrance, la foi, n'importe quoi, et produire l'effet de l'éveil alors qu'on n'en a pas la possibilité, on n'en a pas les moyens, on n'est pas éveillé. Produire l'effet de l'éveil va permettre de faire apparaître en nous le corps du Bouddha, et donc transcender ce qu'on appelle naissance, pérennité, transformation et extension. Hein, ce n'est que par la foi, le fait de croire et donc de pratiquer, que tout cela va être modifié dans le sens de l'éveil. Et c'est pour cela que le, la personne qui s'occupe de l'outre-mer Obayashi, ah bon, j'ai pas retrouvé si c'est Obayashi, c'est ça, disait, malade ou presque mort, il dit, lorsqu'on observe avec calme et rectitude l'aspect de l'instant suprême, donc la mort, à la lumière des enseignements de Nichiren Daishonin, sachez que, même sans guérir de la maladie et avoir à faire face à la mort, les souffrances de l'enfer s'effacent. La maladie est vaincue et les trois actes physiques, verbal et mental s'harmonisent immanquablement. Alors, les quatre souffrances que sont naissance, vieillesse, maladie et mort de cette vie se transforment en quatre vertus de permanence, félicité, soi et pureté. Il indique aussi, c'est transformer notre vie impermanente en vie présente en permanence. Il indique aussi, le soi, c'est transformer notre vie présente, impermanente et dénuée de soi en état de vie libre, présent à l'origine et sans artifice que rien ne peut détruire. Ça c'est fou. C'est pour ça que Nichiren dit, non, c'est le sutra du Bodhisattva roi des remèdes dans le Lotus, le 23e chapitre, où Shakyamuni dit, ce sutra est le remède bienfaisant pour guérir tous les êtres du jambu de Vipa. Si une personne souffrant de maladie est capable d'entendre ce sutra, la maladie disparaîtra de ce fait, et cette personne ne vieillira ni ne mourra. Et c'est pour ça que le grand patriarche dit, le véritable bienfait réside dans la guérison de chaque sorte de maladie qui possède une racine même dans le corps et l'esprit, dans le fait de devenir authentiquement heureux en tant qu'être humain. Autrement dit, le fait de se centrer sur l'obtention de bienfaits équivaut à quitter la voie correcte. Pratiquer pour guérir de ceci, pour guérir de cela, obtenir ceci, obtenir cela, il dit, c'est quitter la voie correcte. Et il dit, le vrai bienfait commence avec la perception du fait que les gens de ce monde sont malades. Autrement dit, il faut prendre conscience et de guérir les maladies des êtres dans le véritable sens du terme. Et non pas alimenter son moi en disant j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, si je pouvais guérir, si j'avais de l'argent, si j'étais moins con, si j'étais plus jeune, si j'étais moins vieux, comme ça. Là, il dit c'est quitter l'avocat par défaut d'éveil. Forcément. Et je terminerai avec ceci. Nichiren dit, la vie n'est que une pensée. C'est pourquoi le Bouddha enseigne le bienfait d'acceptation dans une pensée. Le bienfait d'acceptation, c'est faire entrer en soi les propos du Bouddha, les nourrir, les vivre et s'éveiller doucement. Mais si la pensée accepte pas, si la pensée de chacun trouve superflu le fait de faire l'effort d'étudier l'enseignement du grand patriarche, eh bien, c'est raté. On vous embrasse, à la prochaine.